Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce jeudi, j'en suis désolé, 25 avril 2024, j'ai dû moi me rendre dans ma famille sur le début de semaine et je ne pouvais pas être là pour la mardinale, ce sera donc une jeudinale avec une petite tête de clown sur le côté parce que bah forcément quand on décide de titrer son émission avec un jour de la semaine, à chaque fois que c'est décalé, on se tape un peu la honte, c'est pas grave. On va faire donc un tour de l'actualité du jeu vidéo, parler évidemment de la Fallout Mania qui ne se calme pas, tiens, surprise. On fera un gros point, vous vous en doutez, sur l'explosion, l'implosion, la découpe en tout cas du groupe Embracer, car dans quelques temps nous ne parlerons plus d'Embracer, le nom va disparaître hein, après des années à absorber absolument tous les studios qui passaient et puis des années également à licencier au sein de ces studios et à se dire que oula, quand même manger un peu trop vite et un peu trop peut-être, donc ce sera un sujet forcément central aujourd'hui. Et puis nous parlerons également de pas mal de soucis encore en cette industrie qui est très malade hein. Ces temps-ci on ne va pas se mentir hein, de soucis au sein de studios, de licenciements divers et également de lancements qui se sont pas forcément passés comme prévu mais qui se relèvent doucement. On parlera de No Rest for the Wicked, on parlera de Cities Skylines 2, bon là ça se relève un peu plus lentement, et voilà, il y aura aussi quelques bonnes nouvelles hein, en cours de route, hein, faut pas croire, même une excellente nouvelle qui nous vient de la FTC américaine, mais avant toute chose, je vous propose de faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps, c'est-à-dire regarder une bande-annonce au long cours, une bonne bande-annonce de 3 minutes 20 pour commencer, ce qui est vraiment pas cool pour les gens qui nous écoutent en podcast, absolument navré pour ça. Mais du coup, voilà, on va se regarder cette bande-annonce qui a fait grand bruit pendant que je n'étais pas devant mon ordinateur. Vous êtes un certain nombre à avoir été conquis et avoir inscrit une nouvelle date sur votre calendrier, celle du 11 octobre, pour la sortie du successeur, la prochaine friandise pour fans de Persona. Et ça s'appelle Métaphore Refantasio, évidemment. J'ai volontairement mis les sous-titres, le doublage anglais, sachez-le. Rien que pour vous embêter. Let us speak of the old vulture's last grasp at power. The tournament for the throne. So, summing up, our first trial is to slay a monster. Sounds like we've lost a few candidates already too. Poor bastards went after something too nasty for their headhunt. A land full of feral humans, with people either running or going mad. What are we believing, really? You lot! Enemy attack! Hang us while we're asleep is dirty fighting!
Race to become king, are you?
Not exactly.
I treat all tribes equally.
Each ally of a different tribe.
Fascinating.
Fear and anxiety. They always lead the people astray.
This place, it isn't a utopia.
That's the real world. Then it can die alongside you!
I will not let you die in vain.
He'll be sent in all traces to the gallows. Not just us, but any innocent folks he doesn't find use for.
It is a new dawn, and its light shines upon Lord Luis's king.
This outcome is beyond your meddling now.
I must clear my head of these fantasies. In the end, clinging to a dream will do me no good.
Knowing all this, I shall claim the ideals you abandoned and finish it in your stead.
Voilà! C'est tout ce que vous aurez, et bien sûr vous aurez une date de sortie, au 11 octobre 2024 pour Métaphore Refantasio, Ne me laissez pas refaire la vanne sur Reuse Spirou, s'il vous plaît, je n'en peux plus de moi. Donc, la nouvelle production Atlus, on le rappelle, avec en contrôle, on va dire, en lead de l'équipe des vétérans de Persona 3, Persona 4 et Persona 5. Et on a entendu effectivement un nouveau Shoji Meguro. Shoji Meguro est toujours à la bande originale, mais cette fois-ci, effectivement, on va sortir des ambiances un peu city-pop de Persona, et on va se diriger vers quelque chose d'un petit peu différent, puisque c'est un univers de fantasy qui nous est proposé avec Métaphore Refantasio, l'histoire donc d'un royaume qui perd son roi décède, et à partir de là, il est assassiné bien sûr, hein, le roi, et à partir de là, eh bien, figurez-vous que c'est une démocratie. Donc il va falloir, eh bien, faire élire un nouveau roi, et pour ce faire, il va falloir que votre personnage, eh bien, aille de région en région pour s'attirer les faveurs des différentes factions. Alors, officiellement, bah, pour être élu roi, officieusement, dans le but de soigner le prince qui a été, il me semble, voilà, maudit ou en tout cas empoisonné ou quelque chose comme ça. Et c'est effectivement de ça dont il s'agira dans le jeu. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent quand on voit tout ça. Il y a des trucs sur lesquels on est assez certain. Oui, l'interface est incroyable. Oui, l'élégance générale, c'est absolument, absolument insane. Mais la question qu'on peut se poser, c'est, mais attendez, c'était quoi comme style de combat, ce qu'on a vu ? Eh bien, c'est une version hybride, figurez-vous. Et le mot hybride va être très important, puisque pour les petits combats, le tout venant, les trash mobs, hein, quelque part, vous resterez en temps réel, et ça prendra la forme d'un action RPG. Mais pour les combats qui ont du sens scénaristique, mais également voilà, des monstres où il y a un vrai enjeu de gagner ou perdre, eh bien le jeu basculera sur du tour par tour, un petit peu comme ce que Falcom a pu vous proposer sur certains Legends of cette série que je connais extrêmement mal, mais les Legends of Heroes. Voilà donc pour Refantasio. Alors, si vous êtes un petit peu plus curieux et curieuse de ce que vous venez de voir, sachez que ce n'est pas uniquement cette bande-annonce qui est sortie, mais une longue présentation d'une quinzaine de minutes mise en ligne par Atlus, qui passe par les différents éléments du gameplay, qui va vous parler un petit peu plus en profondeur du système de combat, notamment d'un système non pas de stand, mais quelque chose de ce genre-là. Effectivement, vous allez pouvoir incarner parfois des espèces de représentations qui vous suivent dans cette aventure. Je ne sais plus comment le jeu les appelle d'ailleurs exactement, les archétypes. Et donc forcément, il y a pas mal de gens qui sont un petit peu impatients d'être à octobre. C'est cool de voir des trucs comme ça, que certains appellent déjà sur le chat des futurs classiques, apparaître sur la deuxième partie de l'année, parce que c'est vrai qu'on a tellement vu de grosses prods là sur le début d'année, on avait presque l'impression que ça allait être un peu trop calme sur la deuxième partie de l'année. Donc voilà, ça c'est vraiment une bonne nouvelle, j'ai l'impression. Peut-être que je me mettrai enfin au jeu de chez Atlus avec celui-ci. Peut-être que c'est tout ce qu'il me fallait finalement, une histoire de fantasy. Très très hâte d'entendre parler bien sûr de la BO de Shoji Meguro et de l'écouter surtout. Voilà donc pour Refantasio. La bonne question est posée sur le chat. Est-ce qu'on pourra date ? Eh bien figurez-vous que non. Oui, vous aurez, alors peut-être que vous pourrez, mais en tout cas tout ce qui concerne les jauges sociales et l'amélioration des relations qui va venir, se tisser avec le reste du gameplay, eh bien Atlus en a parlé récemment et a répondu à la question qui lui a évidemment été posée, eh bien ça ne concernera que les relations amicales. Alors est-ce qu'on pourra date à côté de ça ? Ça, je ne sais pas, je comprends la question parce que manifestement c'est un poncif pour les jeux d'Atlus, mais ce ne sera pas les relations amoureuses qui seront soumises à un système de jauge. Pour le reste, je vous laisse regarder ça et bien sûr suivre cette longue présentation de la quinzaine de minutes dont je vous parlais tout à l'heure. La Fallout Mania, j'en parlais dans le sommaire, elle continue à plein tube, hein, et évidemment chez Bethesda Microsoft, on se frotte allègrement les mains. Welcome to the Wasteland, comme dirait Phil Spencer. Donc la sortie de la série sur Amazon Prime, hein, bien sûr, elle a non seulement remis les jeux sur le devant de la scène, mais les chiffres sont toujours plus délirants. Côté Amazon, on parlerait d'un des trois pilotes les plus vus de l'histoire de la plateforme et des meilleurs chiffres pour le visionnage intégral d'une saison depuis la série Lord of the Rings. j'ai envie de dire Dieu que c'était chiant, mais bon, voilà, mon avis là-dessus, on s'en fout un petit peu. On parle de chiffres et uniquement de chiffres, et la puissance, bien sûr, de la licence Lord of the Rings, on ne va pas la discuter. Le 23 avril, mardi donc, ce sont 5 millions de personnes qui ont lancé un jeu Fallout sur PC, console ou mobile, puisque pour rappel, hein, Fallout Shelter est toujours actif en 2024, dont 1 million de personnes bah justement dans les appalaches de Fallout 76, hein, parce qu'on se doute bien sûr que beaucoup de gens ont envie de se réunir en multijoueur dans l'univers de Fallout après avoir maté la série. Pendant ce temps-là, ben, Fallout profite à fond, lui aussi, avec des pics à 165 000 joueurs sur Steam, ce qu'il n'avait pas fait depuis bien longtemps, bien sûr. Tout ça avec le retour d'anciens joueurs, évidemment, mais pas que, comme dirait l'autre. Hein, on retrouve, par exemple, Fallout 4 et Fallout 76 dans le top 10 des ventes Steam de la semaine passée. Et même New Vegas et Fallout 3 en profitent avec un retour dans le top 50 des ventes, avec des pics de vent, avec des pics de joueurs simultanés, parfois jamais atteints par ces jeux-là. Bon, après, ils sont effectivement d'une autre époque. Pour vous donner un petit peu une idée de certains chiffres que j'ai pu aller glaner de ci, de là, on serait, rien que sur la semaine dernière, en Europe, et en Europe uniquement, enfin, en EMEA, c'est-à-dire... Alors, attendez, EMEA, je ne vais pas, me rater, ça va donc être Europe, Middle East et Afrique, eh bien, on serait sur un plus 500 000 ventes pour les jeux Fallout, en ne comptant bien sûr que le dématérialisé, puisque bah, on ne va pas essayer de compter les ventes physiques sur ces jeux qui sont assez vieux. 500 000 ventes hein, sur l'Europe pour les jeux Fallout sur la semaine dernière, c'est pas rien. Alors, c'est pas non plus des bénéfices de ouf, parce que ce sont des jeux qui sont vendus très peu chers. Et on va dire qu'en faisant une estimation un petit peu au prix de ces jeux, en retirant ce que chacun prend, ce que prend bien sûr, voilà, on va retirer la TVA, on va retirer la commission de Steam ou des autres boutiques, on risque de retomber sur quelque chose comme $1 million de recettes. Bon, enfin, ça reste quand même une monnaie du pain tout à fait sympathique pour des jeux qui ont déjà très 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 largement terminé leur exercice. On va dire vraiment, vraiment actif, quoi. Alors, bien sûr, on le comprend, la série est un grand succès, et en plus de ça, eh bien, elle vient vraiment doper les ventes, et peut-être doper les ventes de ces jeux assez vieux, plus qu'on n'avait jamais vu une série doper les ventes. On sait, bien sûr, que The Last of Us, par exemple, a énormément dopé les ventes de The Last of Us, mais il faudra effectivement... Enfin, ça dépend comment on parle, est-ce qu'on parle en quantité, ou est-ce qu'on parle bien sûr en valeur créée. Et c'est naturellement hein, voilà, le bon moment pour glisser une info qu'on voyait assez facilement venir. La série a d'ores et déjà été reconduite pour une seconde saison chez Amazon Prime. Seconde saison qui d'ailleurs, selon le site Variety, pourrait bénéficier d'un joli petit crédit d'imposition de $25 millions. Si elle consentait bien sûr à ne plus aller tourner ses scènes de Wasteland en Namibie, comme c'était le cas dans la première saison, mais le faire tout simplement en Californie, où le crédit d'impôt leur serait proposé. J'imagine que ça a dû peser un petit peu dans la balance également, mais voilà, toutes les parties impliquées, à savoir Xbox, Bethesda et Amazon Prime, ainsi que les showrunners et puis les boîtes de prod qui sont un petit peu entre tout ça, ont validé le fait qu'une deuxième saison était en route. Et c'est peut-être du coup aussi le bon moment, là maintenant qu'on est en pleine célébration de la licence Fallout, le meilleur moment même pour eh bien, glisser directement sur Bethesda France. Bethesda France, l'antenne locale de l'éditeur qui vient de fermer dans le plus grand silence, sans transition. Alors Bethesda France, déjà, c'est quoi ? Comme pouvait le faire par exemple Electronic Arts France, quand ça existait encore, hein, avant que tout ça se soit centralisé du côté de Londres, eh bien c'était une petite équipe qui s'assurait de la meilleure implantation possible de la marque Bethesda au niveau national. Ça encadre donc les relations avec la presse. Par exemple, nous on recevait nos propositions de preview là-bas, on allait parfois d'ailleurs les faire dans les locaux de Bethesda France. On recevait nos clés de jeu là-bas aussi. Ça incarne aussi les relations avec la communauté au niveau local. Prenez par exemple, je sais pas, bah, vos influenceurs très affiliés Elder Scrolls Online ou vos streamers spécialisés Fallout. c'est certainement Bethesda France qui tâchait d'animer ces communautés-là au mieux, d'alimenter ces relais-là en informations, en accès preview, en contenu communautaire spécifique, d'organiser des choses autour des grands temps forts de l'année, Paris Games Week, etc., etc., etc. Bethesda France, c'était également une antenne qui, comme beaucoup d'antennes françaises quand elles existaient encore, parce que c'est de plus en plus démodé, dirait-on, supervisait la localisation française des jeux Bethesda. Alors attention, assez différemment quand même d'un Blizzard Versailles, hein, par exemple, qui avait sa propre équipe dédiée, ses propres spécialistes en interne, ses propres directeurs artistiques de doublage et tout le tintouin. Là, on parle plus d'avoir quelqu'un au niveau local qui sert de contact auprès de la boîte de localisation choisie, un ou une chef de projet, hein, quelque part. Souvent, d'ailleurs, les localisations se faisaient par Bethesda chez Keywords. Keywords, c'est un des indéboulonnables croque-mitaines du milieu de la localisation. Je vous laisse lire sur le sujet Keywords. C'est pas des gens hyper cool. Bref. Mais voilà, faut en gros s'imaginer beaucoup plus petit que ce qu'on pense. Hein. Quand on dit là-bas Bethesda France, il faut pas s'imaginer du tout un open space, mais plutôt une petite escouade, une douzaine de personnes, peut-être une quinzaine de personnes au plus haut, qui proposaient un visage de Bethesda ici en France. Et on a désormais confirmation donc que la charrette de 1900 licenciements au sein de la division Xbox qui a été annoncée il y a quelques mois, eh bien, elle comprenait une fermeture pure et simple de Bethesda France. Plusieurs voix hein, se sont d'ailleurs élevées ces jours-ci sur les réseaux sociaux pour confirmer que, en fait, l'aventure avait pris fin il y a déjà quelques semaines et pour certains et certaines déjà 2 mois. En fait, certains ex-Bethesda ont parlé notamment dans un article de BFM TV pour dire que la nouvelle, en fait, s'était lentement diffusée dès le début de l'année sans avoir été vraiment officialisée. Et puis, elle avait été confirmée par Xbox lors des licenciements. Hein. On sait d'ailleurs que Xbox est allé aussi un petit peu, voilà, à ce moment-là, il y a eu des trucs qui ont été un petit peu ratiboisés du côté de chez Xbox France. Il y a des entreprises partenaires de RP comme... Je ne sais plus comment il s'appelait, Matryoshka, je crois, qui travaillait en direct avec Xbox, qui ont été décommandés. On leur a dit, bon ben voilà, nous on va aller externaliser ça ailleurs, là où ça coûte moins cher, tout ça. De là, certains de chez Bethesda France seraient partis, et d'autres se seraient accrochés à des débuts de promesses, ou en tout cas des idées soulevées par Xbox, que peut-être une petite équipe serait conservée et rattachée aux locaux de Xbox France, parce que pour l'instant, ils officiaient pas dans les mêmes locaux. Rien de tout ça n'a finalement eu lieu, et c'est toute la division qui va s'évaporer. Alors, on n'a pas le détail de la forme prise, j'aime pas ce mot-là, mais par le plan social, hein, mais... En repensant justement au rôle un peu différent que pouvait avoir Blizzard Versailles vis-à-vis de Blizzard, je me suis souvenu des choses qui ont permis un plan social chez Blizzard Versailles et je me demande hein, surtout, j'ai pas la confirmation, mais je me demande si ce serait pas un petit peu le même genre de bidouille qui aurait permis effectivement de faire disparaître comme ça l'antenne Bethesda France. Pour rappel, Blizzard Versailles, c'est notamment grâce aux ordonnances Macron qui ont été promulguées, j'ai du mal à dire Macron sans dire Macron, qui ont été promulguées en 2017 pour rappel, hein, qui permettent notamment à un grand groupe international, même s'il est largement bénéficiaire, de se retrancher derrière les résultats faibles d'une branche locale pour justifier ce qu'on appelle avec un certain cynisme un plan de sauvegarde de l'emploi. Hein. C'est comme ça que Blizzard avait pu se cacher derrière le fait que Activision Blizzard avait pu se cacher derrière le fait que l'antenne locale Blizzard Versailles ne générait pas suffisamment de chiffre d'affaires pour être maintenu, et ce bien que le groupe, lui, aille très bien. C'est peut-être pour ça que je dis Macron comme ça, de manière un peu énervée. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui va se passer avec Microsoft et Bethesda France, hein, d'autant que pour l'instant, il faut savoir que Xbox fait un pur silence radio sur la fermeture de cette antenne. En revanche, on a potentiellement là une idée assez claire de comment Bethesda France aurait pu se retrouver dans le rouge financièrement, ou en tout cas pas suffisamment rentable. C'est un truc en fait que le public sait assez peu, mais que les professionnels du jeu vidéo savent, c'est hyper hyper répandu, et ça concerne bon nombre d'entreprises. Autre que Bethesda, hein, c'était le cas par exemple pour Electronic Arts, c'est le cas de Valve, c'est le cas de bon nombre d'entreprises du secteur et de bien d'autres secteurs. En fait, ces boîtes ne font pas transiter les résultats financiers des ventes dématérialisées via les antennes locales. Ce chiffre d'affaires-là, il n'est pas inscrit de manière locale pour ne pas avoir à payer la fiscalité du pays. Et par exemple, Bethesda, il me semble que tout ce qui est chiffre d'affaires des ventes de jeux dématérialisés, qu'elles soient, même si elles sont réalisées en France, eh bien ça passe par l'Irlande. Concrètement, en France, seules les ventes physiques de jeux Xbox sont, je crois, mises au crédit de la branche française de Xbox, de jeux Bethesda, pardon, au crédit de la branche française Bethesda. Vous voyez un peu le truc venir. En Europe, le marché physique, il est cliniquement mort sur console Xbox après des années d'un déclin de plus en plus immense. Et c'est désormais très clair. Et même un Starfield, par exemple, il n'a pas renversé cette tendance-là. Les autres éditeurs de jeux vidéo qui fonctionnent comme ça, qui font leur compta comme ça au niveau local, ils peuvent compter sur le marché physique PlayStation, qui est autrement plus vivant. Mais si tu sors que tes jeux, donc Bethesda, uniquement sur Xbox et sur PC, et que ton fichier Excel, il fonctionne comme ça, je vois assez facilement comment, à un moment, 3 ans après la finalisation de la fusion Xbox-Bethesda, 1 an après une grosse tôle qui s'appelle Redfall, et en présence du Game Pass, Bethesda France était peut-être cuit à point, bien asséché, bien prêt pour une fermeture grâce justement à ces ordonnances de 2017. C'est de l'optimisation fiscale ? Ah oui, bien sûr, c'est de l'optimisation fiscale. Le but à la base, c'est pas... Disons qu'il y a un effet de bord. C'est-à-dire que de base, le projet, c'est de faire de l'optimisation fiscale avec ça, parce que c'est écrit que vous pouvez le faire, donc on optimise, évidemment. Et en plus de ça, ça laisse effectivement quand même un effet de bord qui est extrêmement intéressant pour les grands groupes, qui est de se dire, à tout moment, là, de toute façon, si on devait vraiment prouver devant, par exemple, les prud'hommes, c'est ce qui s'est passé avec Blizzard de Versailles, que l'antenne locale n'était pas suffisamment rentable et que ça justifiait un plan de sauvegarde de l'emploi, comme ils disent, on peut, c'est déjà le cas. Si on les regarde effectivement par cette lorgnette-là, elles sont déjà à perte, elles sont déjà dans le rouge. Donc à tout moment, c'est fermable. Donc bien sûr, c'est de l'optimisation fiscale, mais qui en plus permet de gagner plus et de fermer au bon vouloir de chacun quand ils en ressentent la nécessité, quoi. Comme je disais, pendant ce temps-là, Microsoft fait absolument silence radio, garde une ligne très proprette, les affaires sont les affaires. Pour l'instant, les communications de l'éditeur, elles se concentrent sur Hellblade 2, qui sort dans tout pile un mois, et puis sur un nouveau Xbox Digital Showcase, qui a été annoncé pour la semaine prochaine, donc lundi prochain, 29 avril, 19h, on est reparti pour un gros tour des prochains jeux du programme ID at Xbox, donc accompagnement de développeurs et de développeuses indépendants. Donc on aura des jeux qu'on a déjà vus, notamment qui ont été cités en préparation de l'événement, donc Dungeons of Interberg, 33 Immortals, ou encore le prochain Dontnod qui s'appelle Lost Records. Et puis pour l'instant absolument aucune prise de parole, ne serait-ce que de Xbox France. On suivra ça, bien sûr, évidemment, parce que c'est notre boulot, mais que ça ne nous détourne quand même pas du constat du jour, cet abandon progressif des territoires au niveau local par Xbox, qu'on sent de plus en plus prompt à concentrer un maximum d'opérations sur un seul pôle européen, sur fond en plus, on en a parlé il n'y a pas très très longtemps, d'automatisation des traductions et de simples relais de communication, des communications américaines, sans venir retailler le message selon les spécificités locales. C'est un truc sur lequel PlayStation France avait une certaine avance depuis un certain temps, même s'il me semble que là-bas, il doit y avoir du vilain aussi, depuis la charrette de 800 personnes dont on a entendu parler il y a quelques semaines. Mais je me souviens, il y a encore pas si longtemps, d'un Xbox Wire français, alors ça concerne pas Bethesda France, ça concerne Xbox France, mais d'un Xbox Wire français, donc le blog officiel Xbox, qui faisait plaisir à voir et qui faisait montre d'une vitalité particulièrement importante dans le paysage des Xbox Wire, des déclinés depuis le principal, quoi. Donc forcément, quand on voit ça et quand on sait que c'est à quel point c'est de plus en plus difficile pour Xbox, ne serait-ce que d'exister, d'exister dans les rayons, etc. Ça, vous l'aurez compris, c'est une bataille qui est complètement en train de se retirer, enfin Xbox est en train de se retirer lui-même de cette équation-là parce qu'ils considèrent qu'ils ont perdu sur ces sujets-là, quoi. Et du coup, la localisation, ils la feront où? Bah, la localisation, ils vont continuer à la faire avec Keywords, etc. Sauf qu'il y aura plus de relais France pour s'occuper de ça. Après, il faut savoir aussi que c'est pas parce qu'une localisation est faite chez Keywords, mais qu'il y a une personne qui supervise en France, que ça va forcément amener que des bonnes idées. On a vu, par exemple, les antennes françaises qui veulent pousser la spécificité locale vis-à-vis d'une boîte qui gère la localisation, exiger par exemple du star talent. Hein, vous voyez un petit peu ce phénomène qui consiste à demander à des gens connus de venir faire des voix plutôt que des gens vraiment pros du doublage. Je ne mets pas Bethesda France en cause là-dessus, hein, j'ai pas de souvenir de star talent à leur propos, il faudrait peut-être me le rappeler, mais ça ne veut, enfin, c'est pas uniquement vecteur d'un travail qui va dans le bon sens ou qui se passe mieux. Je pense que là, on a eu le dernier gros coup de Bethesda France, comme le dit Taleb, c'est effectivement d'être allé chercher la voix française de Harrison Ford pour le futur Indiana Jones. Ça demande très probablement d'avoir une assise au niveau local, d'avoir un petit bureau qui comprenne la puissance culturelle de cette voix. Et après, on sait que Xbox, bon, voilà, ça les intéresse de moins en moins, les doublages intégrales en français. On déplore, par exemple, l'absence d'un doublage intégral sur Psychonauts 2. Ça aurait pu être génial, ça aurait pu être absolument fantastique. De là à prédire que c'est la fin des localisations françaises parce qu'il n'y a plus d'antenne Bethesda France, je me risquerais pas à un truc pareil. Mais on risque peut-être effectivement, de temps en temps, bah voilà. Ils auront effectivement réussi à placer le joli coup Indiana Jones avant la fermeture. Direction Embracer. Plutôt direction feu Embracer, puisque après un an passé à dégobiller partout en expliquant qu'il faisait ça pour le bien des actionnaires, le gargantua suédois a décidé d'écrire une nouvelle page de son histoire en disparaissant dans un nuage de fumée. Quelques semaines seulement après s'être débarrassé de Saber et de Gearbox, eh bien Embracer va scinder ses activités et les répartir dans trois entreprises distinctes, après quoi Embracer et ce nom absolument maudit vont disparaître. Alors attention, on ne parle pas des filiales d'un même groupe, on ne parle pas d'une restructuration, mais bien d'une séparation en trois entreprises distinctes, chacune avec leur propre registre, leurs propres cours financiers, leurs propres actionnaires. Hein. Embracer ne sera pas propriétaire de ces entreprises, Embracer va carrément disparaître pour le coup, mais attention, pas son patron tout de même, hein, son patron de malheur, Lars Wingefors, qui a décidé de continuer à, j'imagine qu'il a dû dire un truc du genre valoriser sa participation dans l'industrie du jeu vidéo en restant actionnaire, si possible un actionnaire important, à défaut d'être majoritaire, dans les trois sociétés qui seront créées à l'issue du plan de séparation. Je dis plan de séparation parce que ça ne se fait pas en un jour, vous vous en doutez, on est sur un horizon à 2025. Alors ces trois entreprises, elles ont été détaillées aux actionnaires lundi matin dans une espèce de présentation qui tentait de tourner les choses de la manière la plus positive possible, au moyen notamment de noms de code, des titres d'entreprises éphémères, en attendant que les communicants s'activent pour leur donner des noms plus stylés, genre Playon, Nakon ou Pull-Up, enfin, des trucs comme ça, quoi. Donc pour l'instant, Lars Wingefors et ses équipes ont procédé à un regroupement des actifs d'Embracer selon le type de projet auquel ces entreprises pouvaient aspirer, avec d'un côté une boîte tournée AA, jeu à petit budget, indépendant, free-to-play et jeu mobile, ça fait beaucoup, et de l'autre, tout ce qui s'apparente de près ou de loin à la création de jeux à gros budget pour le marché PC et console, ce qu'on appelle vulgairement le AAA. Donc la première entité, elle s'appelle pour l'instant Coffee Stain and Friends, et elle regroupe donc Coffee Stain, Ghost Ship, les développeurs de Deep Rock, Tarsier, ce sont ceux qui ont bossé sur les Little Nightmares, le 1 et le 2, mais aussi les développeurs et les développeuses de Teardown, je ne sais plus, ceux de Neverwinter, plusieurs boîtes spécialisées dans le jeu mobile, et l'éditeur THQ Nordic, hein, qui a été mis là pour bien nous rappeler que c'est le royaume du AA. Les licences principales possédées par ce groupe-là, elles s'appellent Deep Rock Galactic, Satisfactory, Valheim bien sûr, qui est une propriété de Coffee Stain, Teardown, God Simulator, hein, c'est comme ça qu'a commencé le studio Coffee Stain avant de devenir son propre éditeur, etc., etc. Ouais, si on m'avait dit il y a 5 ans que THQ Nordic, l'entité centrale autour de laquelle s'est fondé Embracer et le nom Embracer se retrouverait placé sous le nom Coffee Stain, je l'aurais certainement pas cru. Mais en même temps, ouais, voilà. Coffee Stain, maintenant, ça veut dire Deep Rock, ça veut dire Satisfactory, ça veut dire Valheim, c'est une machine à enchaîner les succès, sinon de développement, en tout cas d'édition. La seconde entité, qui elle est tournée, je le rappelle, vers le triple A, eh bien elle possède des licences comme Tomb Raider, Killing Floor, Deus Ex, Kingdom Come, Dead Island, Metro, Legacy of Kain et Le Seigneur des Anneaux. Elle regroupe les studios Crystal Dynamics, Eidos Montréal, Flying Wild Hog, ce sont les gens qui font les Shadow Warrior, Tripwire, Vertigo, War Horse, 4A Games, les gens de Metro, et également Dark Horse Comics, ainsi que l'éditeur-distributeur Playon, qu'on appelait avant Core Media. Et elle s'appelle, pour l'instant, Middle-Earth Enterprise and Friends, la Terre du Milieu et les copains. Parce que bon, effectivement, quand t'as racheté intégralement les droits d'exploitation de l'œuvre de Tolkien pour tous les supports, ça devient plus important à valoriser face aux actionnaires que de posséder Crystal Dynamics ou les gens qui ont développé les Gardiens de la Galaxie pour Square Enix. Quoi. Donc voilà, les noms changeront, mais le découpage a été réalisé comme ça, sachant que bah, comme les fusions, les séparations de ce genre, elles prennent, comme je le disais, un certain temps et que tout ça, ça ne sera pleinement effectif que l'an prochain. Et là, vous allez me dire, mais dis donc, Gotoz, t'avais dit 3 entités et t'en as cité que 2. Eh bien oui, effectivement, j'ai gardé le meilleur pour la fin. La troisième entreprise ainsi formée, elle s'appelle Asmodee Group. Et bah, ce sera l'entreprise française de jeux de plateau toute seule, telle que Embracer l'avait acheté début 2022 lors de la finalisation de cette opération de rachat. Enfin, à quelques passes de licenciement près, bien entendu, hein, puisque Asmodee s'est fait licencier la tronche plusieurs fois par Embracer depuis le rachat. Et puis aussi, à un autre truc près, c'est que l'entreprise s'en va certes de son côté sous le nom Asmodee Group, mais alourdie d'une jolie dette de 900 millions de dollars. Car non, vous ne rêvez pas. Après délibération, Embracer a décidé que les 900 millions qu'il n'avait pas réussi à remblayer en revendant Saber et Gearbox, eh bien c'était Asmodee qui allait en endosser la responsabilité dans le futur. Alors, pourquoi ? Eh bien, justement, au micro de Games Industry, eh bien, le PDG d'Embracer, Lars Wingefors, explique que des 3 entités, eh bien, Asmodee est, selon ses calculs, la plus à même de rembourser cette dette. Et il ajoute même que, quelque part, ce serait assez normal, puisque après y avoir bien réfléchi avec ses copains financiers, eh bien, ce serait pour lui l'acquisition d'Asmodee qui aurait fait ce trou dans la caisse d'Embracer. On était en 2021 quand le projet de rachat est lancé. Plus rien n'avait de sens, pour rappel, à l'époque, en matière... Voilà, la bulle était en train d'enfler hein, sur les montants des rachats, les montants de la consolidation dans le jeu vidéo. Et ce grand rigolo de Lars Wingefors avait brandi bien haut 3 milliards d'euros pour acheter Asmodee à un fonds d'investissement qui lui-même l'avait acheté 3 ans auparavant pour 1,8 milliard d'euros. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc voilà, à partir de là, Embracer en 2019, c'était un nouveau nom hein, en grande pompe avec des superbes slogans. Nous réunissons des jeux géniaux, des gens géniaux, des idées géniales. Et 5 ans plus tard, il faut absolument que ce nom disparaisse parce qu'il est devenu synonyme de malaria dans le jeu vidéo. Alors on va plaquer vite fait comme ça des noms qui plaisent aux investisseurs sur 3 colonnes dans un tableau Excel. On va rajouter « and friends » derrière et on va vite organiser une conférence actionnaire avec des moments absolument terrifiants, hein, comme celui où, déjà il y a celui où ils disent qu'ils sont grave excités par ce qu'ils s'apprêtent à annoncer, t'es là genre, faites un effort tout de même. Et puis le moment où une question d'actionnaire s'inquiète de ne pas voir tel nom de studio sur le PowerPoint, et la réponse de Lars Wingefors c'est « Ah yes, merde, on les a oubliés, désolé aux devs, on les a oubliés mais ils sont dans cette colonne-là ». Donc pendant ce temps, bien sûr, tout le monde va évidemment très bien en haut de la chaîne. Toute cette opération, elle a été mise en place pour sauvegarder la valeur pour les actionnaires, bien sûr, pour simplement faire comme si de rien n'était, et pour que le gars, hein, bien sûr, Lars Wingefors, en ressorte toujours comme un grand capitaine d'industrie qui a pris les bonnes décisions au bon moment, et puis bah, lui, il pourra toujours se raconter et raconter autour de lui un grand roman, comment Embracer a ensuite donné naissance à Middle-Earth Enterprise and Friends, et comment il en est un actionnaire important, etc. etc. Et puis bah, pendant ce temps-là, bah, les petites mains eh bien, de ces trois nouvelles futures entreprises, elles peuvent continuer à suer, quoi. Parce que ça va restructurer, c'est certain, ça va restructurer à fond dans ses antennes, avant et après la validation de cette séparation, hein, pour se faire le plus sexy possible pour ses marchés. D'une entreprise cotée en bourse, naissent trois entreprises cotées en bourse. Trois fois plus, trois fois plus de problèmes. Mais en tout cas, ça ne va pas arrêter les problèmes comme ça. Le cauchemar va gentiment continuer, il aura juste un autre nom. Il faut qu'on se prépare dans les temps à venir à entendre parler du fait que chez Coffee Stain, chez THQ Nordic, on commence à couper ici, là, que chez Eidos Montréal, est-ce que Eidos Montréal ça existera encore dans 2-3 ans? Est-ce que Crystal Dynamics va garder la voilure qu'ils ont actuellement, ou est-ce qu'ils vont garder juste suffisamment pour eh bien, livrer le Tomb Raider avec lequel, sur lequel ils travaillent avec Amazon Games? On ne sait absolument pas, mais on peut partir du principe effectivement que ça ne va absolument pas couper le robinet des licenciements et des restructurations. On va juste en entendre parler sous un autre nom. Voilà. Est-ce que effectivement l'un des trois va être vendu à un moment? Est-ce que l'une de ces... Parce que c'est vrai que quand vous découpez votre activité, bonne question de Kassim sur le chat, mais quand vous découpez votre activité comme ça, c'est peut-être aussi parfois dans le but de dire bon, « bah, tiens, toi, est-ce qu'on pourrait pas te placer sous la houlette de machin, de machine qui pourrait recommencer les acquisitions bientôt qui a eu le plus grand des feux verts il y a quelque temps ?» Eh bien, une idée en tête. Enfin bon. Bref, voilà donc pour Embracer. On arrêtera d'en parler sous ce nom-là, mais je continuerai à essayer de vous aider du mieux possible à y voir clair en rappelant ce nom-là à chaque fois que ce sera nécessaire, parce que derrière, il y aura toujours un peu les mêmes personnes, hein, parce que c'est évidemment le top management d'Embracer qui s'est séparé et à qui on a refilé les uns les autres des bouts de cet empire sous la forme de trois entreprises certes scindées, mais en esprit, ces gens-là sont de la team Lars Wingefors, donc ça reste la maison. T'as cru que c'était fini, mais c'était pas fini en fait, hein. Justement, je disais, et ça va continuer à restructurer, et ça ne va pas s'arrêter, et on en a déjà un petit peu la confirmation, hein. Le groupe Coffee Stain and Friends n'existe même pas encore, jusqu'à 2025, qu'il licencie déjà, hein, techniquement. On apprenait il y a quelques jours que le studio suédois PCs Interactive, donc propriété de THQ Nordic, avait commencé à licencier, a priori, pile un mois après la sortie de leur Alone in the Dark, hein, dont on vous avait parlé justement dans une précédente hebdo d'Origami. C'est Flo qui vous avait fait le test du jeu. Pour l'instant, en fait, seule une personne s'est publiquement exprimée à ce sujet. Elle s'appelle Helena Hansen, et c'est une ex-analyste rattachée à l'assurance qualité sur le jeu. Et elle a publié un message où elle parle de son licenciement et de celui de ses collègues, sans qu'on sache exactement effectivement de quelle ampleur sont les dégâts. THQ Nordic n'a communiqué ni en bien ni en mal sur la performance commerciale du jeu, et le studio était déjà très discret durant le développement sur les réseaux sociaux. Donc là, dire en fait qu'ils n'ont rien publié depuis un mois, voilà, ça ne nous aide pas vraiment à nous placer par rapport à ça. Il va falloir du coup une information, il va falloir un éclaircissement, un approfondissement dans le temps à venir, soit par la presse anglo-saxonne, encore une fois, qui a ces accès-là généralement, soit effectivement une prise de parole officielle du studio. Mais on pourrait effectivement partir du principe que, quoi qu'il arrive, eh bien, il y a eu une passe de licenciement d'une certaine importance après la sortie de Alone in the Dark. Alors, à ne pas confondre, bien sûr, avec l'élasticité des équipes, quelque chose qu'on nous a persuadé comme étant normal dans le jeu vidéo, alors que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais en l'occurrence, voilà, je pense que quand Elena Henson prend la parole pour dire qu'elle a été licenciée, c'est pas comme pour dire que son contrat, un contrat donc au développement, un contrat à durée déterminée, s'est arrêté. Ça n'a pas l'air d'être exactement la même chose. On est dans le licenciaton, je pense que vous l'avez compris. Autant directement en placer une pour cette industrie désespérément malade qui s'est encore bien manifestée cette semaine avec le studio Flaming Foul Studio, qui a en fait dans le même mouvement, ou presque, hein, vraiment à peu de choses près, dévoilé un jeu, annoncé que le projet était mis en pause et annoncé le licenciement de plusieurs dizaines de personnes. Flaming Foul, ce sont des anciens de Lionhead qui se sont constitués en studio indépendant aux alentours de 2016, donc à Guildford, au Royaume-Uni, justement quand Lionhead fermait. Et puis, je pense que si vous avez bonne mémoire, vous vous souvenez, c'est ce studio qui avait réussi à garder un contact avec Microsoft en leur développant le jeu de cartes Fable Fortune. Pas franchement un succès, soit dit en passant, Fable Fortune. Mais le studio avait ensuite pu embrayer sur un jeu autrement mieux reçu, sorti en 2021, Gloomhaven. Et de là, voilà, l'entreprise, elle avait commencé à travailler sur son prochain projet qui s'appelle Ironmarked. Et justement, mardi, l'entreprise dévoilait Ironmarked et sortait même une démo du jeu sur Steam. Vous avez la fiche Steam juste ici, c'est tout ce qu'on a pour le moment avec, vous voyez, on n'a même pas de bande-annonce pour Ironmarked. Et figurez-vous, en fait, que la démo sort pendant que le projet est lui mis en pause, je cite, à cause de la situation financière inhabituelle qui affecte en ce moment l'industrie du jeu vidéo, et clarifié ensuite dans des interviews. Voilà, l'éditeur, qui est l'éditeur du jeu, s'était désolidarisé du projet l'été dernier, avait annulé sa participation au projet, et voilà, aucun autre des la trentaine d'éditeurs et de labels consultés par le studio n'avait accepté de signer le jeu depuis. On le rappelle, on est dans un trou noir actuellement du financement de jeux vidéo, un trou noir tel que ce n'est plus une question de qualité des jeux, c'est une question d'aversion totale au risque chez les éditeurs, si bien qu'en fait, si vous n'êtes pas Supergiant Games ou un autre studio qui a eu un immense succès et qui annonce une suite avec le même nom, etc., il y a de grandes chances que vous entendiez le jeu, il a l'air très chouette, mais il se trouve que nous, là, on ne signe plus rien. D'ailleurs, on ne signe tellement plus rien qu'on est aussi en train de contacter des développeurs avec qui on avait signé quelque chose pour retirer notre mise, sous l'impulsion d'une espèce de grande boule de neige, une crise qui n'en est pas vraiment une, ou en tout cas, pas à ce point-là. Mais si en haut, on nous dit que c'est la crise, alors nous, il faut bien qu'on suive le mouvement. Donc cette aversion au risque-là, elle fait que c'est très difficile aujourd'hui, non seulement de financer des jeux, mais aussi de monter des studios. Et voilà comment Ironmarked se retrouve à arriver sur Steam avec une démo, alors même que le jeu entre en stase, s'en va au frigo. Ce qui se passe, en fait, c'est Flaming Foul veut chercher un maximum de wishlists au moyen de cette démo Steam, de manière à peut-être un jour remonter un dossier avec cette fois-ci peut-être des chiffres qui montre l'intérêt du public pour le jeu, et puis retourner ensuite pitcher des labels et des éditeurs une fois que la tempête sera passée, une fois que des capitaux seront revenus dans le jeu vidéo. Le truc, c'est que le patron du studio, Craig Oman, il se présente auprès du public d'une manière assez curieuse. D'un côté, il explique que le studio a tenu sur ses fonds propres jusqu'ici, depuis l'été dernier, qu'ils ont cherché plein de solutions, bien sûr, qu'ils ont contacté plein d'éditeurs, qu'ils ont fait chou blanc, et en gros qu'il a besoin du soutien du public pour qu'un jour, le Ironmarked qu'on voit dans cette démo puisse ressortir du frigo et exister. Et de l'autre, il confesse que l'entreprise, elle n'a pas juste cessé la production ou mis en pause la production de Ironmarked, elle a également licencié une très grande partie des employés qui ont fait cette démo de Ironmarked, le jeu qu'on découvrira en fait, a été fait par des gens qui, en grande partie, ne sont plus dans la structure aujourd'hui. Ils étaient 30, il ne reste plus que 9 personnes, et ils vont s'efforcer de sortir d'ici la fin de l'année un plus petit jeu en auto-édition, dans l'espoir de faire tenir le studio financièrement pour pouvoir ressortir à un moment Ironmarked du frigo. Quelque part, on sent que le sort du jeu est un peu déjà scellé, Et justement, dans l'interview du patron du studio dans les colonnes du site Video Games Chronicle, VGC, eh bien, Craig Oman, il tombe un petit peu le masque et il avoue qu'il estime vraiment très mince les chances de retour du jeu un jour. En revanche, son expérience au sein de Lionhead, au contact de beaucoup de projets annulés, hein, donc au contact de Peter Molineux avec BC, par exemple, hein, puisque Craig Oman avait bossé sur BC, ou le projet Milo, souvenez-vous, eh bien, ce sont autant d'expériences qu'il semble l'avoir convaincu que les jeux annulés devraient aussi aller d'une manière ou d'une autre, peut-être par l'intermédiaire d'une démo, à la rencontre du public et s'exposer un peu à la lumière du jour plutôt que de disparaître dans un tiroir. Quelque part, il semble penser que ça fait aussi partie du patrimoine jeux vidéo, ces jeux qui ont existé pendant un temps dans certaines entreprises et qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont jamais pu devenir des projets commerciaux. Et c'est un petit peu ce qu'il nous expliquait avec Ironmarked. Oui, c'est bien si les gens jouent à la démo, l'apprécient, wishlist le jeu et qu'un jour peut-être ce compte de wishlist peut persuader un éditeur de se coller dessus, mais peut-être aussi effectivement que c'est une manière comme une autre de dire voilà, Ironmarked a existé dans nos locaux pendant un certain temps, après qu'on ait effectivement monté une pente assez intéressante avec un Fable, c'était pas Fable Legends, je sais plus comment il s'appelle, Fable Fortune, pardon, et puis ensuite Gloomhaven. Depuis le début de l'année, on a vu pas mal, de phénomènes, de jeux phénomènes, de démarrages phénomènes. Alors voilà, il y a ces espèces de gagnants qu'on n'attendait pas, et puis il y a ceux qu'on ne voyait pas une seule seconde se faire cabosser ainsi par l'avis des joueurs au lancement. Moon Studio, un développeur du diptyque Ori, vient de sortir No Rest for the Wicked en accès anticipé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'accueil n'a pas été tendre avec le studio. Donc No Rest for the Wicked, c'est ce très très beau jeu. Quelle surprise, ce sont les développeurs des Ori, qui changent pas mal la donne vis-à-vis des Metroidvania qui ont été produits jusqu'ici, puisqu'il y est question d'une action façon Souls-like, présentée avec une caméra vue du dessus qui rapproche plutôt le jeu d'un hack and slash à la Diablo quand on le regarde d'assez loin comme ça. Et c'est un titre qui ne laisse évidemment pas indifférent via sa bande-annonce, qui comptait son lot de personnes déjà conquises, parce que confiantes dans les devs des Ori, mais aussi pas mal de curieux très sceptiques quant à la capacité du studio à pivoter vers l'action RPG façon From Software, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis, il y a au milieu de ce lancement une question un peu dans l'air du temps. L'accès anticipé, c'est devenu un univers assez impitoyable où les jeux sont faits et défaits très vite et où le public tolère de moins en moins l'approximation au lancement, surtout quand elle vient d'un studio qui existe déjà dans l'esprit du public comme un studio qui a réussi. Pas forcément besoin de faire partie d'un studio qui a réussi pour se prendre des bonnes tartes en accès anticipé. C'est pas mal normalisé dans l'esprit des gens et certains effectivement oublient un petit peu ça. Alors le cas bien sûr de Moon Studio est particulier. Alors avant bien sûr de parler de tout ça, je parlerai bien sûr de Moon Studio aussi. Quand No Rest for the Wicked sort, non seulement avec des gros soucis de performance sur pas mal de machines, mais aussi de sacrés soucis d'ergonomie et tout un équilibrage à régler pour proposer un début d'aventure qui soit véritablement plaisant dès lors qu'on a dépassé le prologue, eh bien, ça finit en petit assassinat sur Steam, parce que oui, 58% d'évaluations positives seulement face à l'algorithme de Steam, c'est certes pas long, ça dure pas trop longtemps, mais c'est quand même une petite tarte dans la tronche, effectivement, le poids des opérations d'artisanat dans le jeu, qui sont très omniprésentes, ça s'est pointé du doigt, les soucis de performance également, même si, comme vous le savez, pour ces trucs-là, on n'est pas égaux face aux soucis de performance. Mais voilà, depuis la semaine dernière, le studio a déjà sorti plusieurs patchs et les travaux semblent avancer à grande vitesse. On est à près de 15 000 évaluations Steam, avec une moyenne qui est devenue plutôt positive. Ça a été récupéré dès le milieu du week-end. En fait, ça part sur un grand succès pour un lancement, malgré la tôle de la semaine dernière. Bien sûr, l'objectif, c'est d'aller chercher les 90%, c'est le Graal pour tout le monde, et le travail va continuer dans ce sens-là. Mais en parallèle, eh bien, il faut faire avec les prises de parole, parfois superflues et parfois super cringe, de Thomas Mahler, le directeur créatif du studio, qui pour rappel avait déjà été épinglé avec son cofondateur dans une enquête de GamesBeat en 2022 pour un management délétère, des commentaires déplacés au travail et de manière générale une ambiance un peu de Edgelord, voyez-vous, voilà, où l'important c'est surtout à qui dira les trucs les plus horribles. Mahler, c'est également ce patron de studio, on en avait parlé ici, qui était allé sur des forums traiter par exemple Sean Murray et Hello Games de charlatan, en mettant aussi CD Projekt dans le panier hein, durant un long réquisitoire de fin de soirée sur les développeurs qui s'en sortent miraculeusement en mentant puis en patchant le jeu après la sortie. Là, pas d'ironie hein, vis-à-vis de No Rest for the Wicked, hein, il sort littéralement en accès anticipé, patcher les problèmes c'est bien le truc, hein, effectivement, et on comprend où ils voulaient en venir sur ces jeux qui sortent sans ce qu'ils avaient promis en 1.0, contrairement à l'accès anticipé. Mais le garçon a cette fâcheuse tendance à ne pas savoir communiquer sans jeter quelqu'un d'autre sous le bus, et c'est encore ce qu'il a fait durant cette semaine un petit peu trouble pour le studio. Là récemment par exemple, il s'est fendu d'un long post Twitter pour réexpliquer au public le concept d'accès anticipé, et l'exemple qu'il a pris, c'est combien certaines zones du premier Dark Souls auraient pu être mieux si From Software avait fait un accès anticipé, je cite, au lieu de rusher pour sortir un jeu pas fini. C'est une curieuse tactique, bien sûr, de sniper le jeu qui sert vraiment de vénérable ancêtre à ce que toi tu essaies de vendre en ce moment, mais voilà, c'est la manière de communiquer de Thomas Mahler et il n'a pas l'air de savoir faire autrement. Bon, alors après, le reste de son post est intéressant, informatif, hein, sur leur manière d'approcher tout ça. Je vous mettrai d'ailleurs l'adresse en description, comme je vais mettre l'adresse sur le chat. Mais voilà, c'est toujours un peu rigolo de voir quelqu'un qui n'a jamais fait d'accès anticipé hein, jusqu'ici, pour rappel, dire des trucs comme ça te permet de peaufiner tout ton jeu, en prenant l'exemple de certaines zones un peu endgame de Dark Souls. On a envie de lui dire demande à l'Ariane si c'est bien comme ça que ça se passe en fait, parce que tu risques surtout de peaufiner ton début de jeu et te retrouver comme tout le monde ou presque, avec un fossé de finition assez gigantesque entre la première moitié et la deuxième moitié de ton jeu, et il y aura certainement plein de patchs d'urgence après la 1.0. Pour le rappeler à Thomas Mahler, tu feras comme t'as fait pour Ori 2, quand le jeu tournait pas, hein ? Parce que c'est bien aussi de rappeler que Ori 2, à la sortie, avait d'immenses problèmes, dans la sortie 1.0, pas accès anticipé, avait d'immenses problèmes de performance, de bout de niveau qui disparaissait chez certaines personnes, et c'est les patchs post-sortie qui l'ont rendu conforme à la promesse qu'en faisaient ces bandes-annonces. Et voilà, si on met effectivement tout le mauvais esprit mis à part, on a assisté à une sacrée tôle en direct sur l'accès anticipé de Steam, avec une note qui n'avait pour le coup plus vraiment de sens et ne véhiculait plus grand-chose de valable vis-à-vis du lancement du jeu. Et une fois que je rechausse mon mauvais esprit, j'aimerais quand même que Mahler continue à sortir des dingueries sur Internet. Moi, je veux qu'il continue à être le sale fou de service, comme on dirait probablement avec Moguri, si ça peut motiver ce qu'il reste de journalisme d'investigation anglo-saxon à aller gratter chez Moon pour savoir s'il y a du mieux, justement, depuis 2022. Je trouverais ça très intéressant et j'ai peur que s'il arrête de faire des vagues, on arrête d'aller se poser la question. C'est vrai que ça serait cool de savoir un petit peu comment ça se passe chez Moon aujourd'hui. Est-ce que les choses se sont améliorées? Est-ce que depuis la réponse du studio, qui était vraiment pas à la hauteur lors de l'enquête de 2022, il y a des choses qui ont été mises en place, il y a des gens qui ont appris de leurs erreurs, il y a peut-être de la formation, il y a peut-être un changement du règlement, il y a tant de choses qui peuvent changer dans une entreprise pour qu'elle tende, d'un point de vue de son esprit, vers quelque chose de plus accueillant. J'allais dire dans la série des accès anticipés au long cours qui ne roulent pas vraiment droit, et puis ensuite je me suis souvenu que j'allais vous parler de Cities Skylines 2, et en fait, non, c'est pas un accès anticipé, c'est bien ça le problème. Voilà, on part direction la Finlande, et le studio Colossal Order, développeur donc de la série Cities Skylines. Skylines 2 est sorti le 24 octobre 2023, et dans la tête de beaucoup de gens, c'est un accès anticipé, alors que pas du tout. Le jeu est juste sorti dans un état qui défiait absolument toute logique commerciale, état technique notamment, et depuis Paradox et Colossal Order sont piégés quelque part dans un chemin de croix pour réhabiliter sa note Steam qui est encore aujourd'hui tout juste moyenne. Et encore, si on regarde les évaluations récentes, là c'est écrit en rouge. Alors voyez-vous, Paradox reste Paradox, hein, c'est comme ça. et après avoir promis que aucun DLC payant ne serait commercialisé tant que le jeu n'aurait pas été totalement stabilisé d'un point de vue technique et qu'il n'aurait pas été mis, on va dire, en accord avec les attentes de la communauté, eh bien Cities Skylines 2 sortait récemment son premier DLC payant. Un pack de contenu additionnel tarifé à 10€, contenant quelques éléments cosmétiques et aucune nouvelle fonctionnalité, je vous le donne en mille, bien avant que tous les soucis techniques du jeu ne soient domptés par le studio. Ça ne s'est pas bien passé, bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, même auprès du public hardcore Paradox, et pourtant, hein, voilà, c'est des gens qui sont quand même pris dans un syndrome de Stockholm avec l'éditeur qui leur vend du DLC depuis des années maintenant. Et voilà, on connaît les méthodes de surmonétisation de tout et de rien et de comment le public Paradox s'en accommode. Le DLC est à 96% de reviews négatives et 4% de gens qui trouvent ça ok. C'est dire si même le public hardcore n'y est pas. Le jeu s'est donc fait saucer par ses plus fervents supporters et Paradox a dû sortir un communiqué d'excuses. Les acheteurs du DLC vont être remboursés. Colossal Order va retravailler sa copie et en refaire un autre DLC plus tard, enfin une nouvelle version du DLC. Les deux entreprises annoncent au passage qu'un comité va être formé avec certaines des voix les plus en vue dans la communauté Cities Skylines pour entendre les critiques des joueurs, faire preuve d'un maximum de transparence vis-à-vis donc des influenceurs, Paradox, hein, et définir ensemble la voie à suivre pour le jeu en 2024. Et le jeu ne ressortira rien en DLC avant 2025. C'est toujours un petit peu compliqué de définir vraiment ce que la communauté veut, parce que c'est la suite d'un jeu qui s'était, par un certain nombre de DLC, énormément étoffé. Et là, forcément, bah, quand on fait la suite de ce genre de jeu, eh bien, il n'y a rien dedans par rapport au précédent. Et c'est très difficile de faire migrer les joueurs de l'un vers l'autre. Demandez à Starbreeze avec Payday 2 et Payday 3, c'est exactement... État technique mis à part, le même problème, tu fais la suite d'un truc qui s'est patché, rajouté du contenu pendant des années, et forcément à côté, bah, ça fait un peu pitié. Voilà, ils en sont un petit peu là, il faut savoir que la patronne de Colossal Order, elle avait justement failli fermer cette porte aux communautaires vis-à-vis du jeu il y a quelques semaines, quelques mois, en prétextant eh bien, une montée en flèche de la toxicité au sein des clients et des fans du jeu, qui faisait qu'en fait, bah, voilà, la santé mentale de ses employés commençait à pâtir de la virulence de certaines communautés de fans sur Internet. Mais là, a priori, ça veut réouvrir la porte et essayer de trouver une solution pour le jeu main dans la main avec la communauté. Alors bien sûr, entre ça, la baisse de qualité général des DLC sur les franchises historiques de Paradox, Victoria 3, hein, qui nage en pleine note moyenne sur Steam depuis sa sortie, le fait que leur jeune branche d'édition Paradox Arc ait déjà quelques jolis ratés à son actif, la tendance, elle n'est pas vraiment à la confiance pour les fans de jeux Paradox, et on sent qu'on est désormais dans le rouge, et on sent que Paradox et des studios comme Colossal Order se retrouve à devoir bah, déclencher des sortes de plans d'urgence. On n'imaginait pas, effectivement, enfin, vous m'auriez dit, il y a 5 ans, Paradox vient de rembourser un DLC, le ramener à la maison, et puis promettre de le redévelopper. J'aurais dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est allé très vite. Oui, bah, l'air de rien, c'est quand même allé très vite. Oh, ça fait bizarre ce que je vais dire, mais je vais le dire. Ok, en 2002, la dette de l'éditeur français Infogrames, elle dépasse les 580 millions d'euros. Et dans un réflexe de survie, l'entreprise, elle va peu à peu disparaître commercialement au profit d'une de ses filiales qui s'appelle Atari. Elle est associée à Atari depuis le rachat d'Hasbro Interactive. Donc tout ça, ça a tout le sens du monde, on va dire, notamment pour... la commercialisation de jeux aux États-Unis. Quelques années plus tard, le nom Infogrames va complètement disparaître et c'est Atari qui va commencer à plonger à son tour jusqu'à 2013 où là vraiment ça aura explosé pour de bon. La suite, si vous ne la connaissez pas, elle est très brumeuse. Atari revient d'entre les morts au milieu des années 2010 via le business des casinos en ligne, du social gaming également, souvenez-vous, hein, le gaming sur Facebook, et puis il réapparaît doucement des bornes de jeux, nous sommes souvent des jeux un peu type casino, poker, etc., dans l'hôtellerie, qui sont estampillés Atari. Et depuis, on a eu de la console mini, on a eu une passion passagère et assez destructrice pour les NFT, pour le Web3, pour le métavers très probablement aussi. Et puis, il y a quelques jours, Atari annonçait le retour d'un label infogramme avec toujours hein, l'animal, le tatou en guise de logo, mais cette fois sans le dégradé arc-en-ciel. La plus moche version du logo infogramme, je pense, à ce jour. Infogramme voudrait être à la fois un éditeur et un développeur de jeux, mais pas immédiatement, et surtout pas immédiatement avec le retour de licence historique de l'entreprise. Il faut dire que de rachat en cession, le catalogue Infogramme historique a été éparpillé dans toute l'industrie. Alone in the Dark est chez THQ Nordic, et manifestement ça se passe pas super. Beaucoup de contrats avec le monde de la BD sont désormais trustés par son héritier spirituel en France, l'éditeur Microïds. Alors Infogramme veut y aller par étapes, tout en confessant bien sûr que son expansion passera par des acquisitions. Pas forcément des acquisitions de studios, peut-être des acquisitions de licences. Là par exemple, ils ont racheté la propriété d'un petit jeu de livraison en coopération qui s'appelle Totally Reliable Delivery Service. C'est Tiny Build qui l'aura revendu, bah parce que Tiny Build avait vraiment besoin d'argent, et ce sera le premier jeu signé sur le nouveau label Infogramme. Et d'un point de vue éditorial, c'est un peu flou pour le moment, parce que Atari dit que Infogramme servira de label aux jeux qui sortent de la direction éditoriale que eux se sont donné avec Atari, le Atari de 2024, qui est en train de se monter son propre portfolio. Donc on ne sait pas exactement quels sont les jeux qui y rentrent, qui y rentrent pas. On sait que Atari a racheté Night Dive, hein, qui a développé le remake de System Shock, pas la licence System Shock, uniquement le développeur de System Shock Remake. Ils ont racheté également un studio de remasterisation, restauration qui s'appelle Digital Eclipse. Ils ont les droits de Roller Coaster Tycoon 3, oui, à nouveau, souvenez-vous, avec Frontier, parce que Frontier Developments va très très mal en ce moment, et en gros, leur a cédé les droits de RCT3. Et puis voilà, un label pour l'instant, Infogramme. Mais bon voilà, si vous espérez des jeux, les Schtroumpfs, les Tuniques Bleues, Astérix, Tintin, bon bah j'ai envie de vous dire qu'on a déjà Infogramme à la maison quoi. Pourquoi t'en veux un deuxième ? J'avais promis une bonne nouvelle. Et c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais genre vraiment vraiment une bonne nouvelle. Donc ça c'est hyper important et on va en entendre parler dans le monde du jeu vidéo. Pour l'instant on va faire court parce que ça vient à peine d'être annoncé. Donc la FTC, la Federal Trade Commission, donc l'autorité effectivement de la concurrence aux États-Unis, je vous en ai toujours quasiment parlé à propos de Microsoft et d'Activision, mais elle travaille sur bien d'autres sujets que ça, et là en l'occurrence, elle était partie à l'assaut des clauses de non-concurrence dans le, non pas dans le jeu vidéo, mais dans le droit du travail américain de manière générale. Il faut savoir qu'aux États-Unis, une personne sur cinq est soumise à une clause de non-concurrence, et ça ne concerne pas que la tech, et ça ne concerne pas que le jeu vidéo, ça concerne les gens qui travaillent dans des postes vraiment très très mal rémunérés, qui travaillent dans des fast-food, des gens qui travaillent même dans le médical. En gros, c'est vraiment vraiment très très pesant sur les travailleurs et les travailleuses américains. C'est généralement des clauses qui, eh bien, vous empêchent d'aller travailler dans votre branche pendant un certain temps après la fin de votre contrat. Et puis aussi, avec toutes sortes de petites lignes au contrat, par exemple, tu n'as pas le droit pour les 18 prochains mois de travailler dans un autre fast-food dans un rayon de, je sais pas, par exemple, 50, 60, 70 bornes autour de chez toi. Et c'est quelque chose qui étouffe le marché du travail américain, puisqu'il empêche les gens d'envisager d'autres jobs. Et moins vous envisagez d'autres jobs, moins vous risquez d'obtenir de meilleurs salaires, de faire jouer effectivement ça de votre côté, faire jouer cette concurrence de votre côté, moins les gens sont bien payés. Alors effectivement, les entreprises, notamment les grosses entreprises, ont plusieurs petites lignes à ce contrat-là, et certaines petites lignes de ce contrat-là doivent être rémunérées pour pouvoir être actives. Mais c'était devenu depuis très longtemps un immense panier percé, de manière systémique, c'était complètement à l'avantage des grandes entreprises et des grands groupes. Et ça, la FTC le savait, la FTC de Lina Khan, qui dirige la FTC aujourd'hui, le savait, et elle voulait partir à l'assaut de ce truc-là. Et justement, eh bien, il se trouve que à partir de maintenant, on ne peut plus signer. Alors bien sûr, ça va aller encore se fighter sur différents niveaux de tribunaux aux États-Unis, mais à partir de maintenant, la FTC a le droit de faire autorité en la matière. Il faut comprendre que ça ne disait pas simplement vous n'avez pas le droit d'aller travailler chez Bidule, chez machin, dans un rayon de 70 km durant les 18 prochains mois. Pas forcément après que vous ayez démissionné, hein. Après que je vous ai licencié éventuellement. Hein. Ça marchait également parfois dans ces cas-là. Je fais des généralités, mais il faut bien se comprendre que chaque contrat est assez spécifique, à ses spécificités en tout cas. Mais il faut comprendre que par exemple, si on rapproche ça au monde du jeu vidéo, dites-vous qu'une clause de non-compete, ça peut vous valoir, par exemple, une convocation dans le bureau de votre patron le lundi, quand il apprend que, à côté de votre travail chez Take-Two, eh bien, vous avez participé à une game jam ce week-end. T'as développé un projet de jeu à côté du travail ? J'ai un truc sur le contrat qui dit que ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça que le jeu vidéo américain est extrêmement étouffé par énormément de grands patrons qui empêchent des gens actuellement en poste, dans des boulots parfois alimentaires, dans le jeu vidéo, eh bien de commencer leur petit projet, de commencer leur projet indé, peut-être même de développer en à côté un petit jeu indé et de se lancer et de voir si commercialement ça prend, etc. etc. Effectivement, on a beaucoup de clauses de non-concurrence en France, mais c'est beaucoup plus difficile à faire respecter parce qu'en France, elles sont rendues nulles dès lors, il me semble, qu'elles ne sont pas rémunérées. Or, aux États-Unis, il y a énormément de dérives où, en fait, elles ne sont pas rémunérées, mais on viendra quand même te péter les genoux si tu essaies quelque chose. C'est imagé, ce que je raconte, bien sûr. Et vous voyez un peu l'idée. Des nouvelles récentes du studio japonais Rabbit & Bear Studio, hein, donc, qui n'avaient même pas encore sorti Eiyuden Chronicle, qu'une suite était déjà confirmée. Hein, donc, Unread Heroes est sorti il y a 2 jours, hein, donc... équipe de vétérans pour rappel de la licence Suikoden, et ils vont continuer sur leur lancée, en tout cas, c'est ce qu'ils ont confirmé lors d'une session de questions-réponses sur Reddit. Junko Kawano, Junichi Murakami et Osamu Komuta ne s'en cachent absolument pas, c'est aussi une manière de venir porter le flambeau au-delà de Unread Heroes, hein, qui sera pour rappel l'œuvre posthume de leur camarade Yoshitaka Murayama, concepteur, pour rappel, star de la licence Suikoden, décédé il y a tout juste 2 mois. Citation donc, « Son absence nous brise le cœur, mais nous avions discuté de nombreuses idées de suite avec lui. Nous espérons réussir à perpétuer l'héritage de Murayama et chérir sa dernière œuvre comme elle le mérite. » Donc le jeu est disponible pour rappel depuis mardi, après quelques jours d'exclusivité pour les backers de Kickstarter. Et nous, on reviendra dessus non pas cette semaine dans l'hebdo, mais prochainement, le temps pour le Suikos en chef de lui accorder tout le temps nécessaire, parce que là, il est sur Stellar Blade et il fallait effectivement qu'on étage un petit peu l'effort de guerre. Mais vous avez un petit peu l'idée, Eiyuden Chronicles 2, non pas Chronicles, Chronicle 2, est déjà en projet chez Rabbit & Bear. Oh merde ! Absolument pas fait exprès d'avoir mis de l'excellente musique pour vous dire au revoir. Ma foi, merci beaucoup d'avoir suivi l'actualité du jeu vidéo avec moi. Bien sûr, ce ne sera pas votre seul point route sur l'actu JV, puisqu'on aura également le Magneto demain dans Origami Lebdo. Ce sera à 13h en live. Et puis le soir sur Patreon, vous commencez à connaître un peu chanson. On parlera de Stellar Blade, de Tales of Kenzera Zao, mais également de No Rest for the Wicked. Si vous avez aimé ce que vous avez vu et que vous avez envie de soutenir, patreon.com/origamimedia, ça fera extrêmement plaisir. Et puis sinon, vous pouvez vous abonner sur Twitch, vous pouvez vous abonner sur YouTube même, je crois. Merci pour votre curiosité vis-à-vis de ces différents sujets. Merci beaucoup pour les échanges très civils et très sympathiques sur le chat. Prenez grand soin de vous. Bonne journée et à très vite. Salut !